With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous présente Joe. Joe est un touche-à-tout des médias, il a fait de la radio, vous vous en rendrez vite compte à son aisance au micro, mais aussi de la télé et il a même bossé pendant une saison au Maternel, l'ex-fabuleuse émission sur la parentalité. Ensemble on parle de son envie d'enfant, de l'accouchement, on parle aussi de partager ses passions avec son enfant et aussi de réussir à concilier deux conceptions d'éducation qui peuvent parfois être différentes avec sa chair et tendre. Alors j'en profite aussi pour vous dire qu'Histoire de Daron ne va pas s'arrêter pendant les vacances d'été. Et oui, vous pourrez me retrouver au bord de la plage ou de la piscine tout au long de l'été à nos rendez-vous habituels, les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast, Podcast Addict ou même Google Podcast sur Android, mais aussi sur Deezer, Spotify, SoundCloud ou même YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Et enfin, une petite précision, même si vous écoutez en podcast, surtout n'hésitez pas à venir laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube, ça me fait toujours un immense plaisir. Je vous mets l'adresse de la chaîne directement dans les notes également. Enfin, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Et le message habituel, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous n'hésitez pas à m'écrire sur histoire avec un S de daron avec un S @gmail.com, je ferai en sorte de vous répondre. Mais j'ai assez parlé, je vous laisse en compagnie de Joe.
On est avec Joe Hume, salut.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, merci bon, beaucoup écoute, Joe.
Je suis ravi que tu ailles bien, tu as bonne mine.
Joe, alors comme vous l'entendez, il a tout de suite, le mec est à l'aise. tu triches, c'est ton métier.
Oui, je fais plus de radio maintenant depuis 2 ans, mais je fais toujours beaucoup de podcasts. Mais oui, j'ai fait 9 ans de radio avant. Et donc j'ai des vieux tics qui reviennent généralement quand on me met un micro sous le nez. J'ai la voix qui monte d'un ou deux tons.
Voilà.
Et c'est automatique en fait. Vous verrez ou peut-être que vous savez si vous avez eu l'occasion de faire de la radio. C'est des systématismes qu'on prend très très rapidement parce que quand tu fais de la radio autour de gens qui en ont déjà fait et que tu te rends compte en t'écoutant la première fois que t'as une toute petite voix comme ça, ouais. T'oses pas trop prendre. Très rapidement, tu apprends à poser ta voix.
Est-ce que t'as coupé ton téléphone?
Alors, je vais le mettre tout de suite en mode avion, n'est-ce pas?
Alors, vous voyez le professionnalisme.
Afin que nous ne soyons pas dérangés ainsi que
désolé
interférés.
Si ça fait bzzzt.
C'est marrant, ce studio d'enregistrement radio où il y a plus de matos photo que radio.
Arrête de dire, les gens ne savent pas.
Ah bon, alors je dis rien.
J'aime bien garder le secret de où on est. Exactement.
Il y a des pastèques accrochées au mur. J'aime beaucoup. Bon, allez, vas-y, je t'écoute, pardon.
Je te sens un peu tendu.
Non, non, pas du tout. Il faut que je me mette à l'aise, mais je suis pas tendu. Je suis plus.
D'abord,
j'ai pas envie de dire de conneries.
T'as voulu commencer par aller sur une autre chaise.
Oui, j'ai failli
très loin
de moi. Me mettre en configuration entretien, tu sais. Oui, bonjour. Alors, je suis papa depuis 3 ans. J'ai une certaine expérience dans le biberon.
Il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tu sais, dans l'histoire de Daron.
Non, bien entendu, mais il y a des réponses un peu plus intelligentes que d'autres.
Il n'y a pas de réponse intelligente ou pas intelligente. Il y a des réponses qui nous conviennent.
Très bien. Je prendrai tout de la manière la plus neutre possible et je répondrai selon ma vision de la vie.
Exactement, s'il te plaît, fais ça.
Je fais ça.
Et donc, tu es papa?
Ouais.
Parce que bon, priorité là.
Tout à fait.
D'un petit garçon?
Oui, d'un petit garçon qui s'appelle Ernest.
Ok.
Je pars du principe que a priori, les auditrices et auditeurs de Histoire de Daron sont des gens bienveillants. Et donc, je vais donner le vrai prénom de mon fils et le prénom de ma compagne qui s'appelle Flo. Comme ça, ça y est, c'est fait, tu vois.
Jusqu'ici, on n'a pas eu de gens qui ont fait. Alors, le pseudo de mon fils, tu veux changer le prénom? Non, jusque-là, ça va, on n'a pas.
Bah, très bien.
Même les grosses rostas comme McFly et Carlito, ils ont donné le vrai prénom de leurs enfants et tout.
Alors, c'est parti, mon kiki.
Tu peux y aller, mon kiki, n'aie pas peur.
Donc,
oui. Tu dis ça parce que tu as tendance à pas montrer ton fils ou à pas trop en parler, notamment sur les réseaux sociaux.
Je suis assez vigilant vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que, par exemple, les fois où je le mets en scène, mais où en tout cas je l'inclus dans ma vie sur les réseaux, on va dire, c'est la plupart du temps sur des stories. parce que tu peux pas éviter des situations qui sont vraiment beaucoup trop marrantes et où t'es là genre ou trop mignonne et où tu te dis bon ça va, j'ai pas un compte moi Jojo papa où je mets des photos de mon fils tous les jours, donc de temps en temps je peux me permettre une petite story. Mais même dans ces cas-là, je fais attention à ce qu'on ne le distingue pas clairement son visage, soit si on le voit vraiment de très très près, je mets un petit smiley ou une petite tête de chat dessus, parce que ouais, j'essaye de respecter une sorte de, déjà c'est quelque chose qu'on s'est fixé avec ma compagne aussi, c'est une décision qu'on a pris un peu à deux. Je pense que si j'avais été peut-être tout seul, j'aurais été plus permissif, mais elle a eu les bons mots pour me faire comprendre que aujourd'hui on évolue quand même dans une société où Internet peut devenir rapidement et un peu incontrôlable et dangereux sans même qu'on pense une seule seconde qu'on a fait quelque chose de grave ou qui pourrait laisser une porte ouverte aux gens pour être tout de suite très intrusif. Et par conséquent, j'essaye d'être assez vigilant. Ça veut pas dire qu'on le voit jamais. Ça veut pas dire que je vais pas faire une jolie photo à la plage où on le voit de dos ou des choses comme ça. Mais je me fais fort de pas le mettre en scène.
En fait, je comprends. Et il y a aussi un truc de consentement, moi, qui m'est venu un peu plus tard. Mais ouais. Quand mes filles étaient plus petites, je les mettais beaucoup sur Internet, sur Facebook, en public, etc. Et même sur mon blog. Et il y a peu de temps, en fait, je me suis dit, mais en fait, tu fais tout ça un peu contre leur gré parce qu'elles étaient trop petites, si tu veux.
Carrément.
Et je leur ai pas demandé leur avis. Et donc, j'ai viré toutes les photos qu'il y avait d'elles d'une
manière générale. D'accord,
t'as
fait le ménage, quoi.
J'ai fait le ménage. Et ça va beaucoup mieux comme ça. Et il reste une photo où en fait elles sont de dos toutes les deux. Et c'est trop marrant parce qu'il y a Lina qui est mon aînée, qui a dit ah mais tiens j'ai trouvé ton blog papa, parce qu'elle savait pas que j'avais un blog perso, parce qu'il y a une de ses copines qui a tapé son nom et son prénom dans Google Images.
Ah ouais, quand
et
même.
Qui l'a retrouvé et qui lui a dit tiens regarde t'as une photo de toi et de ta sœur machin.
T'as vu comme ça va hyper vite.
Et elle a trouvé mon blog et donc elle a été chercher dans les archives de mon blog. Je lui ai dit ah bah en fait tu peux aller voir dans les archives de mon blog, je parle plein de fois de vous etc.
Ouais.
Mais en vrai j'aurais préféré lui en parler moi-même qu'elle le découvre toute seule.
Je comprends. J'ai eu un gros. En fait, toutes ces décisions-là, je crois qu'elles viennent de la première année d'existence d'Ernest, où en fait, sa naissance a quasiment coïncidé avec mon entrée dans une émission de télé qui s'appelait Maternelle, dans laquelle j'ai officié pendant une saison.
On va en parler.
Et bah, on en parlera plus.
De l'équipe de Maternelle. Voilà. Rendez-vous compte.
On en parlera plus longuement, mais c'est vrai que avoir son premier enfant et être au maternelle en même temps, ça avait de très nombreux avantages. Savoir que le moindre problème, j'étais au bon endroit pour en parler à qui que ce soit et avoir des réponses très rapidement. Et en même temps, c'était une émission où on était en bande et où on pouvait très vite arriver sur le terrain du personnel, quoi, tu vois, et de raconter un peu nos vies. Et c'est sur cette année-là que j'ai commencé à essayer d'établir une balance assez équilibrée entre raconter un petit peu ma vie de tous les jours, parce que il fallait que les gens qui regardent l'émission puissent aussi s'identifier au seul mec sur le plateau. Et puis, en même temps, garder une certaine distance pour pas non plus que ça devienne trop intrusif, quoi. Et c'est vraiment il y a des gens qui se posent pas du tout la question parmi les personnes qui écoutent cette émission parce qu'ils ont pas forcément une vie publique, et encore moi je suis beaucoup moins exposé que d'autres personnes que tu as reçues ici, mais tout de même tu vois j'essaye de faire gaffe
avec cette petite exposition comme tu dis en tout cas public, tu fais quand même attention quoi.
Ouais.
Très bien. Est-ce qu'on va parler de ton envie d'enfant, par exemple, pour commencer ?
Alors, mon envie d'enfant profonde, elle date d'il y a assez longtemps. Je pense sincèrement que si j'avais rencontré la bonne personne plus tôt dans ma vie, peut-être que j'aurais été papa plus tôt. Ou en tout cas, j'en ai très rapidement eu envie.
T'as quel âge, là ?
Là, j'ai 35 ans. J'aurai 36 ans. Ça se trouve, quand tu vas diffuser l'émission, j'en aurai 36.
Pourquoi ?
Je sais pas,
dans 3 ans.
bon, j'ai 35, 36 ans, on va dire. Et donc, j'ai eu mon enfant à 32. Ouais, 32. J'arrivais à 33 ans.
Ce qui est à peu près la moyenne dans les grandes villes, en général.
J'ai même flippé qu'il naisse le jour de mon anniversaire, ce petit salopio. Je me suis dit, ah non, quand même, laissez-moi ça. C'est mon jour. En fait, le terme prévu, c'était le jour de mon anniv. Je disais genre, ah non! Non, on n'a pas fait les choses comme ça.
Ça a commencé.
Heureusement, il est arrivé 2 semaines plus tôt, ce qui me laisse quand même le temps de récupérer quand même quelques cadeaux. mais donc, je disais, pardon, je digresse.
T'aurais eu un enfant plus tôt si t'avais rencontré la bonne personne plus tôt.
Ouais, parce que je pense que à cette période-là de ma vie, c'est-à-dire aux alentours de 20-25 ans, j'avais une forte envie d'enfant et en même temps j'étais encore très, j'étais à moitié chez mes parents, à moitié chez ma copine de l'époque. J'étais quand même toujours dans ma ville de banlieue et je pense que j'avais une vision du long terme, voire même du moyen terme, qui n'était pas du tout la même que celle que j'ai aujourd'hui. Et pour moi, avoir un enfant, c'était peut-être, je pense rétrospectivement, que c'était une envie profonde et véritable. Mais en même temps un petit peu égoïste, tu vois. Je sais pas si j'avais eu un enfant à cette époque-là, je sais pas. Alors peut-être parfois je me prends à y penser, tu vois, quel genre de relation on aurait aujourd'hui, parce qu'il aurait peut-être 10-15 ans et que on aurait une différence d'âge moindre et que, mais je suis pas sûr qu'à l'époque j'aurais été forcément à même d'assumer véritablement toutes les choses que ça implique, maintenant que je sais ce que ça implique.
Mais oui, alors ça, déjà de base, on l'explique jamais, hein. Non. Voilà, ça c'est donc l'un des objectifs de l'histoire de Daron, c'est d'éventuellement partager ce que ça implique.
Voilà.
Et bah, écoute, Qu'est-ce qui faisait que t'avais envie d'avoir des enfants si jeunes? Parce que c'est pas forcément un truc très répandu, je pense, chez les mecs.
Écoute, plusieurs choses. Je pense que la première, c'est que j'ai eu une enfance vraiment heureuse, quoi. Avec deux petits frères avec qui il y a eu des hauts et des bas, comme toutes les fratries, si tu veux, mais j'ai grandi dans une famille aimante, heureuse, où on partageait beaucoup, où la culture était un peu au premier plan, comme dans plein de familles de classe modeste de banlieue. On a eu des années avec et des années sans, mais en fait, ça jamais, les hauts et les bas financiers, tu vois, ou on va dire de la famille, ont jamais eu d'impact sur la manière dont on était entre nous et dont on se sentait dans ce cocon familial vraiment chouette. Et je pense que très vite, je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien reproduire ça avec mes propres enfants et pouvoir leur apporter cette joie un peu. Je pense que j'avais certainement quelque chose de nostalgique, tu vois, de cette enfance-là. Et là, on part sur le côté peut-être un petit peu égoïste de la chose, mais j'avais, à l'époque, je pense, très envie de... Je trouvais que ma vie était chouette et j'avais envie de la partager avec un enfant en me disant, mais ma vie est tellement sympa que s'il arrive, il va forcément trouver ça cool aussi et je vais pouvoir lui apprendre plein de trucs et tout. Et je pense que c'était pas quelque chose de... C'était pas une envie malsaine, au contraire, je pense qu'elle était très, très
bienveillante.
Ouais,
ça,
bienveillante, mais aussi un peu naïve.
Un peu naïve.
Tu vois?
Tu sais maintenant.
Clairement, un peu naïve.
C'est
et, hein, on va pas se voiler la face plus longtemps. J'étais jeune et j'étais con. Mais. Si, en même temps, si il ou elle était arrivé à cette époque-là, j'aurais tout fait pour que ce soit un enfant heureux. C'est juste que ma vie aujourd'hui serait très très différente, parce que je pense que, étant donné que j'habitais à 500 mètres de chez mes parents, je pense qu'ils auraient eu une place prépondérante, parce qu'il aurait forcément fallu que j'aurais forcément eu besoin de leur aide. Et puis j'étais pas avec la même fille, donc enfin. Bon, avec des cils, hein, tu
vois. Ah oui.
Parce qu'on, t'aurais des cheveux.
Mais, oui. mais, si j'avais pas.
Mais,
chauve.
Et les miens ne seraient pas blancs. Mais donc, ouais, j'ai toujours eu cette envie. Donc, il y a eu des périodes où c'est reparti. Où je pense que j'étais occupé à faire plein de trucs et ça prenait moins de place dans mon cerveau. Et puis, à un moment, j'ai eu aussi cette période que vivent peut-être certains papas qui ont dépassé un peu la trentaine de se dire, ah, je suis un peu vieux maintenant, ça m'embête, j'ai l'impression que je vais avoir trop d'écart d'âge. Et puis tout ça, ça s'est très très vite évanoui à partir du moment où ma compagne actuelle m'a annoncé qu'elle était enceinte et où en fait j'ai plus pensé à rien. Je me suis dit, oh mais c'est génial.
Ah, parce que vous étiez pas parti du principe, enfin vous êtes jamais dit, tiens, on va avoir des enfants?
Si.
Ah pardon, okay.
Si, bien sûr, si, ça a été un projet.
La façon dont tu le racontes.
Ah, non, c'est arrivé comme ça. Non, avec ma compagne, on est ensemble depuis 12 ans. Et on a attendu avant de faire un enfant. Pas forcément parce qu'on se préparait, mais sans se mettre une quelconque pression, on avait quand même envie d'être dans une configuration cool pour l'accueillir, tu vois, cet enfant. On s'est jamais dit, bon voilà, il faut qu'on soit stable financièrement, il faut qu'on bosse tous les deux, il faut qu'on ait un appart et tout, mais on avait quand même pas envie de faire ça n'importe comment. Donc on a pris un peu notre temps et non, ça a été une décision commune. C'est juste qu'en fait, à partir du moment où on a pris la décision, eh ben, c'est arrivé assez rapidement.
Extrêmement rapidement.
On a eu la chance de pas attendre beaucoup. Et donc, voilà, quand il est arrivé, quand j'ai appris que cet enfant allait être mis au monde, j'étais assez. Toutes les choses que je m'étais figurées, tous les trucs que je m'étais imaginées sont disparues. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à vivre au jour le jour en apprenant petit à petit pendant la grossesse et après, quoi.
Qu'est-ce que t'as appris alors pendant la grossesse ?
Qu'est-ce que j'ai appris pendant la grossesse ? Le mec qui
se
ne
rire,
retient absolument rien.
Les gens savent exactement ce que ce... Les gens qui ont déjà eu des enfants savent exactement ce que ce rire veut dire. Ce rire nerveux.
Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris déjà, premièrement, que... pas qu'on ne servait pas à grand-chose, mais que on n'avait pas sur les épaules une tâche quand même lourde, quotidienne et... Et nous, la grossesse s'est très bien passée, mais néanmoins, quelque chose de... Enfin voilà, qui change complètement ta vie quand tu es la maman, je pense. Et donc, t'apprends à te rendre utile le mieux possible et le plus souvent possible. Je sais pas si j'ai réussi. Je sais pas si j'ai été toujours à la hauteur, mais en tout cas, sincèrement, si tu écoutes, mon amour, j'ai essayé de faire de mon mieux, si tu veux. En fait, j'ai appris à essayer vraiment de faire de mon mieux dès l'annonce de la grossesse, quoi, tu vois. Tu te mets en mode daronning, quoi, tu vois.
Ça a été un déclenchement pour toi de faire un peu plus preuve d'attention envers elle aussi, tu penses, d'avoir ce projet en commun
ça c'est-à-dire un déclenchement par rapport à notre couple, ça,
oui, c'est ça, par rapport à de faire un peu plus attention
je pense qu'on était déjà une bonne team avant la grossesse, mais que pendant la grossesse, je pense que notre relation a évolué dans le sens où il y a certaines choses sur lesquelles on devenait peut-être plus pragmatique, un peu plus efficace assez rapidement. On allait plus droit au but, en fait, sur les, pas forcément les décisions à prendre, mais juste sur la vie au jour le jour, tu vois. Je pense que on a un peu on a appris peut-être à fluidifier certaines choses.
Pas le temps de niaiser, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment très à propos, cette expression, concernant la grossesse.
Oui, c'est ça.
Depuis aussi, d'ailleurs, mais c'est vrai que... Et moi, c'était une année où je bossais pas mal, parce que je faisais le soir chez OUIFM, la radio dans laquelle je bossais avant. Donc,
tu vivais en horaire décalé un peu.
Ouais, je vivais un peu en horaire décalé. Je sais que j'avais plus de temps, tu vois, le matin pour essayer d'être un peu présent. Le fait d'avoir ces horaires décalés, c'était pas si mal, en fait. C'était pas si mal. Et voilà.
Ok. Quid de ce moment magique qui est l'accouchement ? Parce que à un moment donné, la grossesse amène un accouchement.
Alors, l'accouchement, le truc, je pense, qui me restera vraiment en tête toute ma vie, c'est la perte des os, quoi. Où j'étais, je m'en souviens parfaitement, on était en train de faire je vais y aller un petit peu dans le...
N'hésite pas.
Dans le...
On est ici pour dire la vraie vérité.
Dans la vraie vérité de la vie, là. On était en train de... En fait, à un moment, à la fin de la grossesse, il faut dire ce qui est, ma meuf commençait à se faire un peu chier. Donc, on faisait des trucs pour se marrer. Comme des puzzles, par exemple. Et un soir, on était dans ce qui allait devenir la chambre du petit, en train de faire un puzzle Totoro par terre. Et je sais pas pourquoi, je faisais le con. Et d'un coup, j'ai lâché une caisse. Comme ça peut arriver. Et ma copine a eu un fou rire en se disant, mais arrête tes conneries, parce qu'à un moment, en fait, je vais tellement rigoler que je vais perdre les os et ça va partir, quoi. Et moi, j'étais genre, mais n'importe quoi, tu peux pas accoucher juste parce que tu rigoles. Et en fait, elle est partie se coucher en un moment en me disant, bon, c'est bien rigolo les proutes, mais je suis fatigué. Et donc, elle est partie se coucher et moi, je suis allé dans le salon jouer aux jeux vidéo. Et je jouais à un jeu vidéo dans lequel j'étais vraiment hyper absorbé à cette époque-là. C'était cool aussi parce que c'était vraiment, j'ai un souvenir très net, c'était un peu le jeu qui me sortait de tout le reste et je me plongeais vachement dedans.
C'est quoi ce jeu?
C'est Dark Souls. C'est, voilà, tu vois, le genre de jeu un peu immersif dans lequel il faut que tu sois concentré si tu veux survivre.
C'est l'un des jeux sans doute les plus durs qui ait jamais existé.
C'est hyper difficile. Ouais. C'est vraiment un chemin de croix ce jeu. C'était peut-être le 2 d'ailleurs, enfin je sais plus. Mais bref, en tout cas, j'y jouais. Et d'un coup, j'entends Joe, et comme je l'entendais souvent ces 9 derniers mois, Joe, parce qu'elle avait besoin d'un truc, et que j'étais dans le jeu, je dis oh merde, pas maintenant! Et d'autant plus que c'est un jeu dans lequel tu ne peux pas mettre pause. donc si tu lâches la manette,
tu es mort.
mais bon, j'ai fini par le faire, et je suis arrivé dans la chambre, et elle était assise sur le lit, genre bon, bah là, faut y aller. Sachant qu'on n'avait pas fait de sac de maternité, ni rien, comme plein de parents qui sont là, genre nous on a tout prévu, sauf ça.
Sauf
en fait, le sac n'est pas prêt. Et mais étant donné qu'on avait fait une préparation à la grossesse hyper cool, que je conseille en tout cas à tout le monde de se renseigner sur ce truc, ça s'appelle la méthode Bonaparte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne vient pas d'Italie mais du Canada ou du Québec, je sais plus. Et c'est une méthode de préparation à l'accouchement hyper intéressante. On était que tous les deux à chaque fois. Avec une sage-femme qui nous expliquait. Je fais une petite parenthèse parce que je trouve que c'est intéressant de raconter ça. Et puis ça change des proutes et tout. C'était une méthode de préparation à l'accouchement qui incluait vachement le futur papa, c'est-à-dire que j'étais hyper partie prenante de ce qui allait se passer pendant l'accouchement, pendant les contractions. Plus précisément, en fait, quand les contractions commencent à devenir véritablement douloureuses et qu'on s'approche de plus en plus de l'accouchement, on m'avait appris à faire pression avec mes pouces sur des points d'acupression à différents endroits du corps de la maman qui libéraient des endorphines à cet endroit précis et déplaçaient la douleur de la contraction à un autre endroit du corps et en fait créaient une sorte de soulagement. Et ça, je l'ai fait pendant tout l'accouchement. Et les sages-femmes étaient là genre « Wow !» Qu'est-ce que c'est que ce truc?
D'où sort ce mec?
Elles ont pas trop bien compris ce qui se passait, mais elles ont un peu halluciné en disant bon bah écoutez, ça a l'air de faire effet. Donc revenons à ce soir-là. Étant donné qu'on avait eu une méthode de préparation à l'accouchement et une sage-femme qui nous avait préparé hyper cool, elle nous avait bien expliqué qu'à partir du moment où la maman perdait les os, on avait le temps de prendre une douche, de préparer le truc tranquille, de pas se précipiter tant que c'était pas, si la maman sentait pas que c'était là imminent aux portes, on pouvait vraiment. Donc ma compagne s'est mise dans la douche pendant que moi j'ai préparé le sac. La valise de maternité, on a pris un Uber, on s'est arrêté sur le chemin pour acheter des pépitos et on a filé au Bluet, là où ma compagne a accouché.
Je dis ça, mais on a pris un Uber, c'est vraiment le truc de parisien.
Ah oh ben pour, grave,
tu vois la maternité accoucher
rien
en Uber.
Rien qu'en le disant, tu sais, je me suis dit... Bof, tant pis, les jugeurs jugeront, tu sais. Je crois que le Uber, il était trop content. Il était là genre, ah super, bon bah, vous voulez qu'on s'arrête prendre à manger? J'étais là genre, oui, carrément. Donc on s'est arrêté au truc du coin, on a pris des pépitos, une bouteille d'eau. On a filé au Bluet. Là, sur place, on a un peu flippé parce qu'en fait, ils avaient plus de place. Il y avait plein d'accouchements ce soir-là. Du coup, ils ont dit « Ah, on va peut-être vous envoyer dans une autre maternité et tout. » Alors moi, sur le coup, papa inconscient, je me suis dit « Ok !» Et la maman, elle a dit « Bah non, en fait, parce que moi, j'ai préparé ici et tout. Tout est prêt, donc c'est hors de question. » Et là, d'un coup, j'ai fait « Ah bah non, alors c'est hors de question. Non, vous nous trouvez une place et tout. »
T'as raison, maman.
Et ils ont dit « Écoutez, l'accouchement, là, donc ils ont observé ma compagne. Ils ont dit « Bon, bah l'accouchement, c'est pas pour tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser là dans un lit. C'est pas vraiment une chambre, mais vous patientez. » Ce qui, moi, m'a permis de... Ils m'ont dit « Monsieur, vous pouvez retourner chez vous. » Parce qu'on n'était pas très loin, on n'habite pas très loin des Bluets. Donc, je suis retourné chez moi. J'ai pris quelques autres trucs. Je me suis reposé un peu. Je suis retourné à la maternité. Et puis là, il y a eu l'accouchement, quoi. Et c'était, on avait préparé une compile avec de la musique. On a vraiment essayé de se mettre dans les conditions les plus cool. On a eu la chance de tomber sur deux sages-femmes vraiment formidables, dont une qui s'appelait Héloïse, je m'en souviens, parce qu'elle était vraiment super cool. Et ça s'est hyper bien passé, quoi, tu vois, comme un premier accouchement peut se passer, avec évidemment le flip à chaque fois que t'entends plus le petit blou 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 blou, t'es là genre, ah qu'est-ce qui se passe, enfin le moindre détail ne t'échappe pas et du coup t'es attentif à tout, mais je pense que il y a des trucs qui restent un peu diffus parce que je sais pas, il y a peut-être des gens qui se souviennent vraiment parfaitement de leur premier accouchement, de leur première naissance et tout, mais moi je sais qu'il y a des choses peut-être que mon esprit a transformé avec le temps, d'autres choses qui sont moins claires. Tu vois, la timeline parfois se devient un peu floue, mais je me souviens quand même de quelque chose d'assez fort, d'assez épatant de ma part vis-à-vis de ma compagne, quoi, d'être là genre waouh, c'est quand même, on est vraiment peu de choses. Tu vois, alors, elles font vraiment des trucs fous que je me sentirais incapable de faire, donc beaucoup d'admiration. Et puis le sentiment, ouais, de je me souviens bien de ces points d'acupression où j'appuyais et tout, où pour moi c'était un peu une façon d'être partie prenante du truc et de doing my job, quoi, tu vois, doing my part.
Quand tu dis, c'est quoi le truc que t'as en tête et qui t'a fait dire waouh?
C'est premièrement, c'est la résistance à la fatigue et aux contractions, c'est-à-dire qu'elle a quand même, toujours gardé le smile. Elle a été, tu vois, contrairement, alors j'en ai pas le souvenir, mais j'ai vraiment l'impression de pas m'être fait insulter une seule fois, alors que j'ai discuté avec plein de papas qui se sont fait traiter de tous les noms pendant la naissance, tu vois. Alors que moi, j'ai l'impression d'avoir échappé à tout ça, d'avoir eu quelque chose d'assez easy going. Après, voilà, là, je te parle de mon point de vue. Tu parlerais avec elle, ce serait probablement très très différent. Je parle juste de ma perception des choses. Mais je pense que elle a dû vivre une expérience bien plus intense. Enfin, pas plus intense, mais intense différemment en tout cas. Elle a ressenti une intensité physique indéniable, alors que moi j'étais vraiment observateur. J'essayais d'être un bon copilote du truc. Et puis voilà quoi, j'ai fait ce que j'ai pu.
Comme nous tous.
Voilà, comme j'espère, enfin, comme j'encourage tout le monde à le faire, en tout cas.
Le mieux possible. La découverte avec ton fils, vous saviez que... Est-ce que vous saviez que vous, le sexe...
Que c'était un garçon, ouais. Ouais, on savait que c'était un garçon. Sur le moment, ça m'a mis un petit coup parce que je voulais une fille. Et puis, en fait, j'ai très vite oublié. Donc, on savait que ça allait être un petit garçon. Moi, je me souviens que... Je me souviens l'avoir vu et que tout se soit passé un peu comme au ralenti, tu vois, genre il est sorti, ils l'ont mis sur la maman. C'était assez, j'en ai un souvenir assez doux. J'ai le souvenir d'avoir automatiquement zappé toutes les choses, tous les trucs annexes de l'accouchement qui peuvent être un petit peu pas forcément hyper ragoûtants et tout, où on t'en parle avant, on dit oh, attention, t'essaieras de pas regarder là, ou t'essaieras de te concentrer là-dessus et tout. Puis finalement, en fait, sur le moment, t'as même pas besoin d'y penser parce que tu mates juste l'enfant, quoi. Et tu regardes s'il a l'air d'aller bien et tout. Il a très vite fait des petits, enfin, trouvé son souffle et il est arrivé en forme, quoi. J'ai pas coupé le cordon, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens parfaitement parce que les sages-femmes et le médecin, parce qu'il y a le médecin qui est venu à un moment pour terminer l'accouchement parce qu'il fallait une toute petite intervention. Et je me souviens qu'ils m'ont tendu la paire de ciseaux comme ça. Ils étaient là genre, coupez le cordon, monsieur. Moi, j'étais là genre, non, laissez-moi. Non, je m'en fous. Et c'était vraiment genre, c'est... En fait, je crois que le fait de couper le cordon, je m'en faisais pas une grosse... c'était pas mon attente principale. Oh, pas du tout, parce que ça me dégoûtait ni quoi que ce soit, mais j'avais pas du tout envie de me concentrer sur une paire de ciseaux. J'avais envie de regarder l'enfant. Du coup, quand ils m'ont tendu le truc, tu vois, genre... Non, mais je m'en fous, en fait. C'est pas grave. Allez-y, faites-le. On s'en fiche. Et je pense que je suis resté très... Je peut-être même qu'il me disait des trucs, genre, monsieur, il faudrait que vous fassiez ci ou ça. J'écoutais rien du tout.
Ouais, ouais.
En fait, c'était fini, il était là, il avait l'air d'être en forme, donc j'avais juste envie qu'on soit tous les trois. Et c'est un peu ingrat d'ailleurs, parce que je te parlais tout à l'heure du fait que les sages-femmes avaient été ouf et trop bien et tout, mais je pense que pendant 5 minutes, j'ai oublié leur existence, jusqu'à ce qu'après, on prenne l'enfant pour aller faire les premiers tests. On a fait un pot à pot assez rapidement aussi pour que la maman puisse se reposer, donc...
Mais c'est pas ingrat, c'est juste que c'est votre moment.
Non, mais oui, bien sûr.
Mais
je pense
qu'elles sont métier.
Elles savent, en fait, en vrai. Mais c'est juste que à posteriori, tu sais, tu culpabilises un peu en disant, j'aurais pu leur faire chapeau, bravo, merci. En tout cas, non, j'ai juste fait, oh, salut, toi, ça va. Et donc voilà, c'était un moment vraiment, intense, mais tout en étant tout en étant ouais doux. J'ai un souvenir d'une certaine douceur. Quoi. Peut-être que c'était dû aussi à la musique qu'on passait. Enfin, je sais qu'on avait fait une compile hyper longue avec avec beaucoup de trucs qu'on écoutait à ce moment-là, avec un artiste qui s'appelle Father John Misty, qu'on était allé voir en concert à la fin de la grossesse aussi, qui avait chanté. Il était venu faire une, en plus d'aller le voir en concert, il était venu faire une session acoustique dans la radio où je bossais. Et du coup, j'avais amené Flo, ah, ma compagne. Du coup, il avait joué vraiment pas très loin du, il avait pas joué à côté du ventre en sachant, ouais, qu'elle était enceinte. C'était pas du tout le but. Mais il y avait, on avait essayé de créer une atmosphère où, en fait, tout ce qui avait rythmé la grossesse était là en condensé pendant l'accouchement. Donc tout ça avait créé, ouais, une sorte d'atmosphère un peu de cocon. C'était vraiment très agréable.
Je voulais revenir sur l'histoire du cordon. Ouais. Et dire à tous les gens qui nous écoutent.
Bah en fait, il est toujours là. Il est là. J'ai pas coupé.
Mais faites comme vous voulez. En fait, vraiment, c'est important, bah parce, ouais, que ne ressentez pas la pression de. Moi, je me souviens que la meuf, elle m'avait insisté en fait pour que je coupe le cordon et je l'avais envoyé bouler en fait en lui disant non, mais chacun son métier.
Mais moi, peut-être qu'ils ont insisté, mais je crois que j'ai même pas.
Oui, t'as pas calculé.
En fait, très vite, j'ai fait non, laissez-moi tranquille.
Mais c'est cool que t'aies pas ressenti cette pression-là plutôt que de le faire sans avoir vraiment envie de le faire à ce moment-là. C'est bien, quoi. Donc
vraiment, c'était. Je m'en fous. Foutez, quoi. Faites ce que vous voulez. Suivez votre instinct.
Oui, c'est important.
Si vous aimez ça, en revanche, faites-le. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et tout, ouais. Allez-y. Faites même une cérémonie, tu vois. Vous pendez le cordon de chaque côté de la pièce et comme si vous faisiez une, tu sais, une inauguration d'un palais, paf, tu coupes le cordon. Ramène tes gigantesques ciseaux de mer dorés. Et vas-y à fond, hein, si t'as envie.
Qu'est-ce qu'on inaugurerait, tu penses, si on coupait le cordon ?
La vie.
La vie de ?
Bah, d'un enfant. Et puis la vie d'une famille qui va. Parce que la naissance d'un enfant, c'est aussi la naissance d'un premier enfant, en tout cas, c'est la naissance d'une famille, tu vois. Donc t'inaugures le truc. Mesdames et messieurs, je coupe le cordon. Et tu sais, tu fais applaudir les sages-femmes et tout.
Bien sûr.
Vraiment.
Mais tu ramènes du monde.
D'ailleurs. Bah voilà, tu.
Fais venir des spectateurs.
La famille, les amis, tout ça, quoi.
Comment se sont passés les premiers jours ?
Je les ai un peu oubliés. Alors les premiers jours à la maternité ont été assez cool, assez calme. On a eu des visites, mais on a quand même assez rapidement été. Ça fait partie des moments un peu délicats, particulièrement avec la famille, d'être un petit peu comment dire, tout en restant poli et diplomate. De dire, écoutez, on est hyper content de vous voir et évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de vous présenter cet enfant. Mais malgré tout, on a aussi envie de garder un peu quelque chose de nous trois, quoi. On avait un peu envie d'être tranquille aussi. Et ça a été parfois bien compris et bien accepté. D'autres fois un peu problématique, particulièrement avec mon papa et ma maman qui sont deux personnes que j'aime profondément du fond de mon cœur et qui ont été tels qu'ils sont, c'est-à-dire extrêmement présents et affectueux et pas du tout en fait de leur part, je sais très bien qui ils sont et je sais très bien ce qu'ils avaient envie de donner et la situation dans laquelle ils avaient envie de nous mettre, c'est-à-dire du confort et en fait ils avaient envie d'aider tout le temps et à un moment il a fallu leur dire écoutez, on est grand, on va y arriver, on n'a pas besoin que vous veniez de banlieue pour nous ramener en voiture à l'appart, c'est à 5 minutes, on va se débrouiller. Et je sais qu'à ce moment-là, il y a eu la seule d'ailleurs, depuis ça n'est jamais arrivé à nouveau, ou vraiment à des degrés vraiment moindres, mais c'est la première fois qu'il y a eu une sorte d'incompréhension, tu vois, où je pense que eux avaient certainement fantasmé quelque chose. Et que on a peut-être pas répondu exactement à leurs attentes, mais qu'en même temps à ce moment-là je pense qu'il fallait qu'on soit égoïste pour que par la suite ça ne devienne pas quelque chose de qui se répète et qui puisse devenir un peu malsain où on comprend pas comment dire les choses et tout. Donc voilà, il y a eu un petit moment un peu de temps d'axe.
Vaut mieux dire les trucs, ouais, tout de suite, hein.
Ouais, ouais.
Même si c'est dur à dire, je pense.
Ouais, ouais. Franchement, on a eu une engueulade. Hein. On s'est un peu pris la tête.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Et je pense que après ils l'ont... ça veut pas dire qu'ils sont pas venus, en plus ils sont venus et tout. Bien, on n'a pas dit vous voyez pas l'enfant. Ouais. C'est juste qu'il y a un moment où on a dit on gère. Mm. Et heureusement qu'on l'a fait. Et aujourd'hui ça se passe super bien. Enfin, je pense que je dois être un des papas. On doit être parmi les parents qui ont le plus de bol parce que on a mes parents qui sont vraiment pas loin, qui sont à la retraite tous les deux, qui sont hyper attentifs, qui sont hyper en demande. Donc on a quand même rarement le souci d'avoir à trouver quelqu'un en urgence pour le garder ou quoi. Ils nous ont aussi beaucoup facilité la vie, donc je profite de cette émission pour leur dire merci. Pardon d'avoir été un peu brusque à ce moment-là, mais c'était nécessaire et merci pour tout le reste et pour tout ce qu'ils ont donné depuis parce que ils sont vraiment très présents dans la vie d'Ernest et c'est ce qu'on voulait aussi un peu et du côté de ma compagne aussi. C'est juste que ses parents habitent un peu plus loin, mais on essaye en tout cas de faire en sorte qu'ils soient en contact régulièrement, soit virtuellement, soit physiquement en vrai, et c'est cool.
Ton projet à toi en tant que père pour élever un petit mec en 2018
Alors il y a, et je pense que ça aussi, ça va être, les gens vont se dire que c'est un peu pareil pour tout le monde, c'est qu'il y a le projet que tu te fais en tête et il y a la manière dont tu parviens à l'appliquer. Donc le but pour le moment, il est petit, il vient d'avoir 3 ans, et encore je dis il est petit, mais là il est plus si petit quoi.
C'est jamais trop tôt.
Depuis un an, il commence à capter beaucoup beaucoup de choses, et nos discussions deviennent de plus en plus intéressantes et de plus en plus engagées en termes de vision du monde et des gens et de la vie en société et tout ça. Alors le projet, il a été très vite dans le sens qu'on voulait donner, c'est-à-dire que très rapidement, il a eu une place en crèche parce qu'on voulait très vite qu'il ait une vie sociale en dehors de la maison et qu'il fréquente d'autres enfants. On a la chance d'être dans un quartier qui est très parisien mais à la fois très mixte, où il est amené à fréquenter une population très diverse, et ça fait partie, moi qui suis banlieusard du Nord, ça fait partie des choses que je voulais un peu reproduire, parce que même si il y a beaucoup de débats, de discussions et de polémiques qui sont cristallisées aujourd'hui par Internet, moi tous ces trucs-là, j'ai l'impression de les avoir vécus tout à fait différemment en grandissant en banlieue dans les années 80 et 90. Et j'ai envie d'essayer de retrouver, même si ça va forcément être difficile, mais cette insouciance et ce côté absolument pas réfléchi de qui est en face de toi en fait. Donc ça c'est quelque chose que j'essaye par petites touches d'inclure dans l'éducation, l'apprentissage aussi de la des mœurs des autres gens, c'est-à-dire que pour être tout à fait dans le concret, ce matin, en fait, tu te rends compte que la société a quand même des trucs qui sont hyper établis, dans le sens où Ernest, par exemple, quand il joue avec son petit dinosaure, il vient souvent nous voir pour lui dire qu'il a perdu son papa et sa maman, tu vois. Et c'est très bien, aucun souci là-dessus. C'est juste que ce matin, je sais plus exactement, il me demandait si machin était marié avec machine ou un truc comme ça. Et non, s'il avait son papa et sa maman et je lui dis, tu sais, le petit voisin à côté, il a sa maman et sa maman, parce que notre petit voisin à côté, il a deux mamans. Et il dit, mais il a deux mamans, et pourquoi? Je dis, parce qu'elles sont amoureuses, et que en fait, il pourrait aussi avoir un papa et un papa, tu vois. Donc c'est des notions qui sont encore, je pense, un peu floues pour lui, mais que j'essaye petit à petit d'inclure, histoire que ben, j'espère, en tout cas je pense qu'on n'y échappera pas, mais je suppose que d'ici une dizaine d'années, ce sera en fait complètement naturel dans leur tête, quoi, tu vois, et qu'ils se poseront même pas la question. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à ça, favoriser ça en tout cas.
Je me suis rendu compte que la plupart des mômes, quand tu leur dis en fait voilà c'est comme ça, en fait ils partent du principe que c'est ok, ouais, et qu'il n'y a pas de problème. Et c'est exactement. Plutôt nous, en tant qu'adultes, en fait, qui venons leur foutre des trucs dans la tête en disant ça c'est bien et ça c'est pas bien, mon pote.
Exactement. Et c'est, alors moi, si j'essaie toi, de lui dire si toi, que tout
adulte,
est pareil, quoi.
Voilà, c'est ça. Si toi, en tant qu'adulte, tu viens dire en fait, bah voilà, c'est normal, il y a le petit voisin, il a pas une maman.
Ouais.
Normal.
C'est. Alors le but, c'est pas de faire du bourrage de crâne, tu vois, et.
Oui.
Et je pense que ça aurait de toute façon l'effet inverse et que ce serait pernicieux, mais.
Non, c'est juste expliquer la vie.
Mais
telle
voilà, ouais, exactement. Sans forcément, parfois il pose des questions, et quand il pose pas les questions, juste quand il dit quelque chose qui me semble parfois moi être un peu réducteur ou étriqué, j'essaie d'élargir en tout cas les possibilités pour lui, tu vois, et de dire il y a ça, mais ouais, mais tu vois, il y a ça aussi, et c'est bien, ouais. Tu vois, les gens peuvent.
Tu disais tout à l'heure que vous aviez pas forcément le même projet avec ta compagne. C'est non, quoi les points de divergence?
Non, parce que moi je suis un con. résumons les choses. Non, pas du tout. C'est juste que en fait j'ai un rapport hyper fort et affectif avec la culture, avec la musique, avec les films, avec les jouets, avec enfin tu vois, je collectionne les jouets, je les prends en photo.
T'as plein d'opinions.
C'est ma passion.
T'as plein d'opinions.
J'ai plein d'opinions sur plein de trucs.
Sur les films. C'est...
oui, effectivement, je suis assez vocal vis-à-vis des trucs que j'aime ou que j'aime pas. Il y a tout le temps de la musique à la maison et je pense que sans du tout loin de moi l'envie de dire que moi j'ai le rôle du mec sympa qui aime tout et que ma compagne est là pour installer des barrières, mais il y a, parce que finalement moi j'ai appris à le faire aussi, mais il y a quand même un peu de ça, c'est-à-dire que je pense qu'on est un bon binôme dans le sens où il y a des moments où elle vient me voir et me fait mollo pomme chips quand même parce que c'est un enfant, et c'est génial d'essayer de lui apprendre les prénoms des 4 tortues ninja, mais pour lui, c'est des tortues rouges et bleues et oranges et violets, et c'est bien aussi, tu vois. Moi, je suis genre, oui, c'est vrai. Alors lui, il s'appelle comme ça, et tu vois, c'est un peu horrible. Et c'est plus un travail pour moi quotidien d'essayer de rester moi. C'est-à-dire à la maison, il y a de la pop culture partout, il y a de la musique à peu près tout le temps. Je fais partie des gens qui considèrent que le rock ça s'écoute un peu fort, donc parfois je mets la musique un peu fort, des trucs comme ça. Et soit il adhère, soit il s'en fout, tu vois. Et quand il s'en fout, j'insiste pas. Mais il y a des choses sur lesquelles il est chaud, quoi, tu vois. Je crois que les Tortues Ninja, il a tout de suite compris, quoi. Les Transformers, un jour je suis rentré à la maison, j'avais une voiture, en 2 secondes c'est devenu un robot, il a fait il a bugué et depuis il kiffe. Et c'est pas quelque chose que je lui fous sous le nez pour essayer de faire en sorte qu'il aime ça. Au contraire, moi je préfère qu'il fasse son chemin, mais étant donné que c'est là, parfois il y est confronté visuellement et soit ça va l'intéresser et il va venir voir et essayer d'y jouer, soit il s'en fiche et c'est très bien aussi.
Tu viens de dire dans le normal que tu avais ramené un Transformers à la maison et que on a tous entendu au début du podcast que tu avais 35 ans, mon pote.
Ouais.
Il y a un vrai truc. Alors,
bah moi c'est
c'était parlons de tes jouets parce que
si tu veux.
T'en fais un. On va pas parler que de ça parce que je sais
non.
Tu serais capable d'en parler pendant 4 heures.
Bah ouais, ça va virer en podcast sur les jouets.
Mais t'as un compte Instagram.
Ouais,
parlons de ton compte Instagram si tu veux, parce que tu mets en
alors,
scène
très
tes,
rapidement,
tu
j'ai,
scène
un,
tes
j'ai un compte Instagram qui s'appelle French Toy Love, French _ Toy _ Love, qui est un deuxième compte Instagram que j'ai créé parce qu'à un moment je commençais vraiment à prendre trop de photos de jouets et que mon compte Instagram perso devenait qu'un compte de jouets. Je me suis dit bon, il faut en fait que je fasse un truc à part, et c'est petit à petit devenu, c'est passé du hobby à vraiment une passion pure et dure, quelque chose même avec lequel j'essaie de professionnaliser d'une certaine manière. En fait, j'aime les jouets depuis l'enfance. J'ai jamais vraiment j'ai jamais vraiment arrêté d'aimer les jouets, même si mon rapport aux jouets a évolué. Aujourd'hui, en fait, évidemment, j'ai 35 ans, je joue pas avec mes jouets. Je fais pas des bagarres dans le salon, tu vois, je fais pas des piou-piou. Mais, d'une certaine manière, le jouet, pour moi, il a plusieurs fonctions. La première, c'est de garder mon lien à l'enfance, qui pour moi est quelque chose de sacré, de précieux et que j'ai envie de conserver. Et en même temps, prendre de la photo de jouet, pro, c'est-à-dire faire de la mise en scène, travailler des lumières, des effets, faire quelque chose de très manuel et presque artisanal avec ses jouets. C'est pour moi la meilleure manière, enfin, la manière la plus créative que j'ai trouvée de rendre hommage aux icônes de la pop culture que j'aime. C'est-à-dire que j'ai arrêté de faire du dessin, donc aujourd'hui je sais plus trop dessiner. J'ai lâché la musique aussi, prendre des photos de jouets, c'est une des manières que j'ai trouvé de m'exprimer artistiquement tout en gardant ce lien avec l'enfance que je chéris particulièrement. Et ça, tout en n'essayant pas du tout de l'imposer à mon fils. D'ailleurs, la plupart du temps, je fais des photos quand il est à la crèche ou quand je sors. Ou c'est rarement un truc qu'on fait en famille. Ça arrive, mais c'est assez rare. En fait, il capte le truc il y a quelques mois, quelques semaines, on a commencé à le voir se balader avec des objets qui ne sont pas du tout des appareils photo, mais de s'en servir comme appareil photo. Et j'étais là genre, ah merde, en fait, il me voit tellement tout le temps avec un appareil photo à la main, même quand je prends pas de photos, en fait, l'appareil photo est toujours là dans le coin quelque part et parfois ça m'arrive de prendre des photos juste pour faire des tests. Donc je pense petit à petit, il m'a vu faire ça. Donc il s'est dit, tiens, c'est marrant, moi aussi, je vais faire semblant de prendre des photos. Et en fait, un jour, là, c'est vraiment il n'y a pas longtemps, on était en train de se préparer, ma compagne était partie au boulot, parce que c'est moi qui l'emmène à la crèche tous les matins, et on était en train de se préparer pour la crèche. D'un coup, moi, j'étais en train d'enfiler mes chaussures, et j'entends « Papa, viens voir !» Et j'arrive dans l'entrée, et il me dit « Prends la photo !» Et là, en fait, sur le buffet, il avait installé deux dinos et une Ferrari, qu'il avait mis dans une sorte de position, qu'il avait mis en scène, et il m'a dit « Prends la photo. » Et je me suis dit, ok, c'est génial. Je suis parti chercher mon appareil photo. Je me suis mis en place et il me dit, ah non, 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 tu te mets là. Et là, il m'a bougé pour que je prenne la photo depuis l'angle dont il. Ah. Donc en fait, j'ai fabriqué Spielberg. Hein, je ne cherchais plus. le futur Spielberg est là. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a vachement touché parce que il y a des choses qui se font sans que.
T'es cherché à pousser.
Sans que t'aies cherché à pousser. Et moi, c'est ça les choses sur lesquelles ma compagne a une fonction assez importante vis-à-vis de moi, c'est d'essayer de parfois calmer mes ardeurs sur le fait de lui faire comprendre qui est David Bowie parce que c'est mon dieu, pourquoi les Transformers c'est cool et tout. Il faut qu'il prenne le temps de faire ça tout seul. Et ça, je le comprends tout à fait. Donc, s'il y a des trucs qui lui tombent sous la main et que moi, je veux bien lui prêter, il les prend. Mais sinon, c'est à lui de se faire son truc. En revanche, cette histoire de photo, en fait, c'est venu tout seul. Et j'ai été le premier abasourdi par le fait qu'il me... En fait, le fait qu'il mette des jouets et qu'il me demande de prendre une photo, soit, mais le moment où il m'a bougé pour changer l'angle, je me suis dit, oh là, c'est...
Il a compris le principe.
Il a compris le principe, quoi. Donc, on lui a offert un Fisher-Price appareil photo.
C'est trop cool.
Pas vraiment de photo, mais... faire un truc.
C'est marrant parce qu'il y a des spécialistes du comportement, tu sais, qui disent notamment que les gamins, ils réagissent à 80% de non-verbal, donc de comportement. Donc, ouais. C'est-à-dire exactement de te voir dans ce truc-là.
Ouais.
Et qu'à 20% du verbal. C'est-à-dire que quand tu viens dire un truc, ça a très peu d'intérêt, vraiment. Juste fais-le et montre-le. Et bah,
c'est comme quand il essaye de reproduire les positions de yoga de ma compagne, quoi, tu vois.
Voilà.
C'est-à-dire, elle lui explique parce que c'est que le yoga. Hein. C'est juste, il la voit faire et il a entendu. Ah, quoi, chien tête en bas, ça a l'air marrant. Et puis il essaie de le faire, quoi, tu vois. Donc c'est hyper drôle. En revanche, oui, effectivement, c'est plus compliqué sur les trucs que tu essayes de lui faire comprendre. Là, t'as l'impression qu'il fait exprès de ne pas comprendre. Mais c'est un enfant.
C'est un chemin.
C'est un chemin.
Le temps viendra.
Mais non, c'est hyper agréable, c'est hyper cool.
Parlons de ton année au maternel, on en a parlé tout au début du podcast.
Qu'est-ce que c'était cool!
Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Il y avait un casting, c'est ça?
Ouais, en fait, il y avait. Moi, à l'époque, je bossais chez WeFM et j'avais envie de tenter l'aventure télé.
Jamais fait de télé auparavant.
J'avais fait de la vidéo.
Oui.
Sur une chaîne de la TNT qui s'appelle. Comment ça s'appelait cette chaîne déjà? Je sais même plus. L'énorme TV.
Ah, ok. Oui.
L'énorme TV où je faisais une émission de chronique. Pop culture et tout, quelque chose qui me ressemblait énormément, mais qui ressemblait pas mal à la radio. En fait, il y avait des caméras, mais je faisais pas trop gaffe. J'avais envie d'essayer un peu la télé. Et j'ai une copine qui bossait dans une boîte qui coproduisait les maternelles. Une copine de ma compagne, d'ailleurs, qui me disait, mais il faut aussi qu'on essaye de trouver un truc, ce serait trop bien que tu fasses de la télé. Et qui un jour m'appelle en me disant, mais là tu vas être papa quand là? Je lui dis bah là fin mai début juin. Elle me dit mais tu sais qu'à la rentrée en fait ils cherchent un nouveau papa dans les maternelles parce que le mec se barre, tu veux pas aller les rencontrer? Et en fait je suis allé les rencontrer, il y a eu effectivement un casting, enfin il avait fallu que je prépare une chronique, j'ai fait une chronique sur le tire-lait. Une chronique sur le tire-lait vu comme j'avais pris le comme si c'était un nouveau coloc dans l'appart.
J'en ai un souvenir ému, moi.
T'en as un souvenir ému du tire-lait? Bah moi aussi. Et j'avais écrit une chronique comme en partant du point de vue d'un mec qui doit accepter un nouveau locataire avec nous dans l'appartement, à savoir le tire-lait, c'est-à-dire le mec qui touche plus les seins de ta femme que toi. Et en fait, ils avaient bien kiffé les maternelles. Ils avaient dit tiens, c'est bien débile ça. On va le faire venir sur le plateau lui. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est très vite bien passé avec l'équipe qui était hyper cool. Et il s'est passé quelque chose d'assez magique cette année-là, c'est que j'étais chroniqueur en plateau, c'est-à-dire je testais des nouveaux produits, que ce soit des poussettes, plein de choses. Je faisais des tests de produits maternité et à côté de ça, j'avais la chronique des sorties avec les enfants. Une fois par semaine, on se barrait avec un groupe de gosses et on allait voir des expos, des trucs et on faisait des petits reportages et je venais les présenter en plateau. Et puis une des chroniqueuses de l'émission, Carole Tolila, nous a annoncé à un moment qu'elle était enceinte. Et qu'elle allait devoir partir en congé maternité, sachant que la chose dont elle s'occupait dans l'émission, c'était un reportage quotidien qui s'appelait 9 mois à la maternité, où elle tournait à la maternité de Saint-Cloud en immersion auprès des sages-femmes, auprès des médecins, auprès des couples de parents. Et en fait, on m'a proposé de le faire quand elle est partie. Donc, et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment génial. C'est une super opportunité parce que premièrement professionnellement bah ça me prenait à faire du reportage et à être sur le terrain et à faire autre chose que juste du plateau et de la chronique, et deuxièmement bah pendant un peu moins de 6 mois je suis allé 3 fois par semaine à la maternité, j'ai fait des gardes, j'ai appris à vivre au rythme des sages-femmes, des chirurgiens, j'ai assisté à 10 accouchements, j'ai vécu des moments hyper forts avec des couples de parents qui avaient leurs premiers enfants, d'autres qui accouchaient de leur 7e fille en même temps qu'un autre couple où la maman accouchait de leur 7e garçon presque simultanément. J'ai vécu des moments vraiment dingues qui m'ont premièrement apporter un respect sans fin pour le métier de sage-femme que je trouve vraiment incroyable. Ça m'avait déjà marqué pendant l'accouchement de ma compagne, mais quand je les ai vus bosser au jour le jour et quand j'ai fait des gardes avec elles, je me suis dit ok, en fait ce taf il vient d'une autre planète quoi, tu vois. Je sais pas, je suis quelqu'un de d'athée et je crois pas en Dieu et en diable et tout ce que tu veux, mais je crois aux anges que sont les sages-femmes quoi, qui font un métier de taré, qui demande énormément de patience, de passion, et où je pense que voilà, elles méritent largement plus que ce qu'on leur donne. Et puis juste de comprendre comment fonctionne une fourmilière qui est une maternité. C'était la maternité de Saint-Cloud, donc elle est assez fat. Il y avait plein de services, plein de trucs que j'ai appris à découvrir petit à petit, et ça m'a vraiment, ça a été une des périodes les plus riches en émotions de ma vie. Et également, ça m'a complètement pas rasséréné, parce que j'étais déjà quelqu'un d'assez serein, mais ça, je pense que le prochain enfant je le vivrai d'une manière totalement différente maintenant que j'ai vu toutes ces choses là tu vois. Maintenant que j'ai assisté à 2 césariennes, à des accouchements plus compliqués que d'autres, il y a eu plein de moments vraiment assez poignants, et où ce sont des choses que ces gens là vivent au quotidien plusieurs fois par jour quoi, tu vois. Et toi t'es confronté à ça et tu te dis ouf, ok, il faut être quand même hyper fort psychologiquement pour tenir dans ce genre de métier, quoi. Tu vois. Et c'est vraiment admirable. C'est admirable. Et donc, j'ai fait ma fin de saison des maternelles là-dedans. Et c'était... Quand on a appris que, en fait, j'ai pas été repris aux maternelles l'année suivante parce que personne n'a été repris. En fait, l'émission existait depuis 15 ans. Je suis arrivé la 15e année. Et à partir de cette 15e année-là, pour parler très rapidement, la production a changé. À partir du moment où la boîte de prod change, toute l'équipe change. C'est-à-dire que même Nathalie Le Breton, qui était là depuis la première saison, on lui a dit bah salut. Et ils ont refait une émission qui s'appelle maintenant La Maison des Maternelles, qui repose sur le même principe, mais qui est différente avec une nouvelle équipe. Et ça a été un peu un déchirement pour moi parce que cette année avait été tellement géniale.
T'aurais aimé continuer.
Ah, mais trop. Parce que c'était. C'est rare en fait. Aujourd'hui, on est de moins en moins dans une société où les médias sont bienveillants. Tu vois, nous, on, 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 nous, on, on, nous incite à plus de bienveillance, au vivre ensemble. Mais en même temps, on est dans la culture du bashing et de la punchline et de la hate. Je le sais, puisque j'y participe sciemment. Donc, j'en suis complètement conscient. Et en même temps, au maternel, c'était une sorte de bulle de bienveillance où les gens étaient... où les gens étaient adorables, où j'ai appris plein de choses, même sur la première année d'Ernest, tu vois, où on m'a soulagé de plein de petites angoisses. Et c'était vraiment une année géniale. Et je pense que, quelle que soit la forme qu'est l'émission aujourd'hui, c'est génial que ça existe, quoi, tu vois. Et on se rend pas compte à quel point c'est pas une émission dont les audiences ou le succès doit rentrer en ligne de compte. En fait, l'important, c'est qu'il y ait des gens, souvent pour leur première grossesse, qui tous les matins sont devant les maternelles et apprennent des trucs hyper importants, essentiels, qui vont faire en sorte qu'ils vont mieux vivre leur grossesse. Et moi, ça m'a apporté une première année d'Ernest hyper épanouissante, quoi, tu vois. Alors c'était un peu frustrant parce que j'y passais beaucoup, j'étais à la radio et en même temps j'avais les maternelles, donc j'avais un emploi du temps bien chargé. Mais je pense que le temps que j'avais avec le petit et ma compagne, eh ben, il était vraiment de qualité.
Ouais, je comprends. Et je suis déjà allé, je pense, deux ou trois fois sur le plateau des maternelles.
Ouais.
J'étais invité. J'avais fait d'autres plateaux. Et c'est vrai que ce plateau de télé-là, parce que c'est quand même un truc, des plateaux de télé,
ouais,
il y a des caméras,
ouais,
il y a de la lumière,
ouais,
etc.
C'était un gros truc, quoi.
Et puis les gens, le stress qu'il peut y avoir autour.
Bien
en
sûr.
Fait, maternelle, rien, quoi. Vraiment, depuis l'entrée où tu rentres dans le bâtiment, en tout cas à l'époque, où tu rentres dans le bâtiment jusqu'au maquillage où les meufs sont hyper adorables, jusqu'à quand tu te retrouves sur le plateau, où, en fait, ils cachent les caméras, tu les vois pas du tout, les caméras
très...
sont planquées et tout. C'est trop bien fait.
Ouais,
et tout est.
Cool.
Enfin, vraiment, moi, j'en ai un très très bon souvenir. Donc, il y a aussi pour les invités de l'extérieur ce truc de bienveillance qui ont découlé, quoi, vraiment.
Imagine, mais j'ai fait une année au maternel et l'année d'après, j'ai été reporter chez BFM TV. J'ai eu une sorte de choc thermique extrêmement violent où t'es là, genre, ah oui, en plus, l'année des élections présidentielles, tu vois.
Ouais.
Donc, vraiment, genre, dans une chaîne d'infos au moment où vraiment c'est l'apocalypse. Ça a été deux années très 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 différentes en termes d'ambition.
J'imagine.
C'était pas pareil. Même si c'était cool aussi, mais c'était vraiment vraiment pas le même genre de truc bienveillant, quoi.
Je vais te poser la question que je pose à presque tous mes invités, parfois j'oublie.
Ah, c'est quoi ?
Qu'est-ce que t'aurais envie de dire à ton fiston ?
Ah oui, non, je m'étais dit que j'allais préparer un truc.
Ce podcast dans 10 piges.
Bah écoute, j'ai rien préparé. Donc
Tu vas le dire parce que je sais que t'as des trucs à lui dire.
Dans
forcément.
10 piges, donc il aura genre 13, 13 ans. C'est la préadolescence ou l'adolescence 13 ans ?
Ouais, c'est l'adolescence,
ça,
13 ans,
on est d'accord.
Ça commence tôt. Hein.
Alors, je ne peux que formuler des espoirs, mais en tout cas, si tu m'écoutes, si tu es tombé sur cette ancienne mode de communication médiatique qu'on appelle le podcast, qui a probablement été remplacé aujourd'hui par quelque chose de très cool. J'espère en tout cas qu'il y a l'équivalent du podcast dans le monde dans lequel on vit dans 13 ans. J'espère que je suis encore là pour voir à quel point tu es devenu un beau jeune homme. Et j'espère que ce qu'on essaye peut-être parfois maladroitement de faire avec ta maman, à savoir... juste faire de toi quelqu'un de respectueux et qui soit dans un bien-être sache que tout le monde a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, tout le monde est trop grand ou a des pieds qui puent ou a des bourrelets ou a les cheveux blancs ou n'a pas de cheveux. On a tous un truc qui va pas. Donc en fait, personne n'a tout. Et j'espère que ta vie telle qu'elle est actuellement te plaît et te convient et fait en sorte que tu es heureux. J'ai beaucoup changé d'attitude vis-à-vis de plein de choses pendant les premières années de ta vie. Parce que on l'a pas dit, mais le fait d'avoir un enfant, pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup de gens, ça change le rapport qu'on a... À la culture, à toutes les choses qui mettent en scène des enfants, ou toutes les choses de la vraie vie qui arrivent à des enfants. Mes parents me disaient que avoir un enfant c'était énormément de bonheur, mais aussi beaucoup d'angoisse incontrôlée et incontrôlable. Et j'espère qu'à 13 ans, tu m'en fiches pas trop, s'il te plaît. Hein? Parce que parfois, on flippe. Et voilà, j'espère que t'es heureux. J'espère qu'on n'a pas été trop relou et qu'on s'entend bien. Même si on arrive à une période de la vie où je pense qu'on va beaucoup s'embrouiller. Moi, j'ai eu une adolescence plutôt cool. C'est mes deux petits frères qui ont eu des adolescences compliquées. J'espère qu'en tant qu'aîné, toi aussi, tu auras une adolescence qui ressemblera à la mienne et qui sera faite de bienveillance et de d'amour et de paisibilité.
Premier truc que t'as dit, c'est pas anodin. T'as dit, j'espère que je serai encore là.
Bah ouais.
Tu flippes ?
Ouais. Je flippe pas, moi, de plus être là, plus que je ne flippe de la mort d'un enfant, quoi. En fait. Je pense que c'est le truc qui a le plus radicalement changé après sa naissance chez moi. C'est une sorte de prise de conscience de la fragilité de la vie qui est vraiment un truc qu'on peut considérer comme un peu galvaudé, cliché de dire ça, mais en fait la prise de conscience elle est tout de suite et elle est très très forte, c'est-à-dire que vraiment pour te donner un exemple très concret de la manière dont mon rapport à la violence envers les enfants, la mise en danger, le mal-être enfantin a changé. Je vois plus du tout les choses de la même manière, c'est-à-dire que je suis un gros lecteur de comic books et l'autre jour j'étais dans le métro et je lisais Batman et dans le run de Batman que je lis actuellement, il y a un personnage qui est une sorte de gangster à la petite semaine, mais qui est un peu, tu sais, comme ces gangsters qui sont gangsters parce qu'ils ont besoin de faire vivre un peu leur famille, qui a une femme et un enfant, qui a pas trop de thunes, et il est dans une sorte de cercle vicieux, il essaye de s'en sortir mais il n'y arrive pas trop. Et une fois, il échoue à sa mission et son boss, qui est le gros gangster, fait tomber son fils malade d'un truc un peu incurable. Et en fait, toi, en tant que lecteur, t'assistes juste à un père qui est au chevet de son fils. C'est hyper pernicieux parce que c'est un fils qui adorait jouer au cerf-volant. Et en fait, la corde de son cerf-volant, il y a eu du poison dessus. C'est un truc qui peut pas exister, mais qui est hyper parlant quand tu lis le comics. Et en fait, en jouant au cerf-volant comme il jouait tous les jours, il a chopé une maladie incurable et il meurt face à son papa, quoi. Et genre, j'ai chialé dans le métro. Mais vraiment, quoi, à chaudes larmes, en lisant Batman, alors que je pense qu'il y a 5 ans, j'en aurais pas rien eu à foutre. J'aurais probablement eu de l'empathie pour ce personnage qui en plus est cool, mais jamais ça m'aurait autant affecté. Et aujourd'hui en fait les films, les séries, les infos, les livres, les comic books, tout ce qui a un rapport à l'enfance qui peut provoquer des émotions fortes, c'est tout de suite, ça marche à 100%. Et c'est assez étrange parce que d'un côté c'est cool parce que ça permet de parfois de revisiter des œuvres avec un prisme complètement différent, ça rend tout beaucoup plus intense, mais en même temps ça peut aussi, enfin je sais qu'il y a des films ou des trucs que j'ai pas revus et je sais pas comment ça, je sais pas ce que ça va me faire, quoi. Il y a un film qui s'appelle Les Fils de l'Homme, je sais pas si t'as déjà vu ce
bien
truc
sûr.
Je pense que quand je vais revoir ce truc ça va me faire très très bizarre. Parce que une fois que t'as conscience de ce que c'est que d'avoir la responsabilité d'une vie, et que on va pas se le cacher, pendant la première année c'est quand même un petit truc ultra fragile, ton rapport à l'enfance il change clairement, quoi. Et tout un tas de trucs que moi j'avais refoulé, que j'avais mis derrière moi, auxquels je pensais plus, que j'avais complètement oublié, sont revenus à la surface, et où tu te dis waouh, il y a quand même un sacré nombre de trucs que j'ai vraiment envie d'éviter à mon enfant, quoi, tu vois. Et en même temps tu peux pas être là tout le temps, donc il faut aussi accepter que ben le danger il est tout le temps présent, et que quand t'es là peut-être que tu serviras à quelque chose, mais peut-être que tu serviras à rien, et qu'il y a des moments où t'es pas là et où il faut apprendre à vivre avec, quoi. Et je me souviens de mes parents qui, quand j'étais ado et que je rentrais, que j'étais tout le temps fourré à Paris et que je rentrais totalement inconscient de ce que ça pouvait le provoquer chez eux avec le premier RER, que je m'en foutais un petit peu parce que je faisais n'importe quoi. Et que eux, en fait, quand je rentrais à 6 heures du mat, je leur disais, mais pourquoi vous dormez pas? Vous êtes cons, quoi? Ils disaient, mais en fait, tu comprendras quand tu seras papa. Et je disais, n'importe quoi, c'est juste vous qui êtes beaucoup trop flippé de la vie. Bah, en fait, je m'excuse platement d'avoir été, de ne pas vous avoir pris au sérieux parce que, effectivement, c'est un flip, quoi. C'est génial. C'est épanouissant, c'est tout ce que tu veux. D'autant qu'on a la chance d'avoir un fils qui est hyper, hyper cool, hyper marrant, hyper curieux. Mais ça rend le truc d'autant plus précieux, quoi. Et t'es là. Et moi, ouais, du coup, j'étais quelqu'un qui pensait régulièrement à la mort. J'ai aucun mal à dire ça. Tous les jours, je pense à la mort. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus tangible. Voilà. On va pas finir là-dessus. On va dire un autre truc avant.
Non, je voulais terminer là-dessus parce que c'était pas mal. Alors, si tu veux, j'ai un film qui m'a bouleversé en tant que daron et je pense que si je l'avais vu avant, ça aurait pas du tout le même effet. C'est un film qui s'appelle The Impossible, je sais pas si tu l'as vu, qui raconte l'histoire vraie d'une famille qui vit le tsunami.
Avec Ewan McGregor
Oui, exactement.
Oh là là, l'angoisse, ce truc.
Tu l'as vu?
Non, alors je l'ai vu avant.
Alors revois-le maintenant.
Je peux pas, c'est pas possible.
Le mec donc se retrouve, sa femme et son fils sont à l'autre bout, très extrêmement loin, emportés par la vague.
C'est une histoire vraie, mais en tout cas, ça se déroule pendant le vrai truc.
C'est tiré d'une histoire vraie.
C'est
tiré d'une histoire vraie. Donc sans doute un peu romancé à l'américaine, etc.
Ouais, bien sûr. Mais
et le mec
tout, c'est...
se retrouve avec ses deux plus jeunes fils à devoir choisir entre. Soit je laisse les deux fistons à des étrangers parce qu'en fait j'ai pas trop le choix et je vais à la recherche de ma femme et de mon aîné, soit je reste avec eux et je ne sais pas ce que je vais me
faire. C'est le genre de. Enfin,
j'ai tellement chialé, mon mec.
Ah non, mais mec, je sais pas si je pourrais le revoir aujourd'hui. Je pense que ça me rendrait cinglé parce que moi je peux pas m'empêcher de projeter en fait, me projeter et de me. Il y a peut-être des gens qui arrivent à faire le distinguo et qui parviennent à.
Ce sont des acteurs. Ewan McGregor, voilà, normalement, il joue un Jedi.
Voilà, tu sais, mais moi j'y arrive pas, je m'identifie tout de suite. Je me suis toujours facilement identifié aux œuvres que je matais et tout, mais alors là, depuis que je suis papa, c'est pire.
Et vous, dites-nous dans les commentaires, c'est quoi les films que vous avez vus et revus ensuite qui vous ont complètement changé la vision des choses. Prisoner aussi, bravo, très bien, Prisoner.
Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Ah non, mais là, on est quand même sur les pires films glauques. Il y a aussi des films qui ont un rapport à l'enfance hyper cool. Genre La Guerre des Boutons, par exemple.
Je vous invite à regarder Boyhood aussi, si vous ne l'avez pas vu. Boyhood. En tant que parent, c'est vachement bien.
Film concept assez. Parfois, les défauts de ses qualités, mais en tout cas hyper intéressant à regarder parce que c'est, ben voilà, j'avais jamais vu un truc pareil.
Non. Là, le mec filme le gamin de 6 à 18 ans avec le même môme et les mêmes acteurs, etc. Exactement. Tout au long. Donc les gens vieillissent en même temps qu'il filme. Donc il a tourné le film sur 12 ans, le gars.
C'est assez dingue. Et
tu l'as vu avant d'être.
Ouais, ça je l'ai vu avant d'être papa aussi.
C'est pareil.
Ouais, il y a plein de trucs. Faut tout revoir.
Ça change tout.
Faut tout revoir.
Ça change tout.
Bon, heureusement, il y a toujours de nouvelles œuvres aussi, et je pense que tu peux aussi comprendre les œuvres qui sont faites par des gens qui sont parents et des gens qui sont pas parents. C'est des petits, ça fait un peu. Je veux pas du tout paraître clivant ou élitiste en disant ça, genre vous avez pas d'enfant, vous pouvez pas comprendre. Au contraire, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir les deux visions, mais c'est ouais, voilà, tu réfléchis aux choses différemment. Enfin, moi, en tout cas, je réfléchis aux choses assez différemment.
Merci Jo.
Mais c'était un grand plaisir. Merci
venu.
À toi.
Oh là là, c'était sympa comme tout.
C'était cool.
Vous pouvez retrouver Jo sur. On mettra tous les liens comme d'habitude sur Insta.
Oh bah écoute, ouais, il y a trop de trucs.
Les choses où on peut te voir, etc., etc.
Avec plaisir.
Tout ça. À bientôt. Salut. Merci.
Ciao ciao. Merci à toi.
Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout, vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron ou sur mon Instagram. Je suis sur @fabflorent. FabFlorent. Je vous mets le lien dans les notes du show. J'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde, même si j'ai parfois un peu de boulot et un peu de retard. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron, le lundi 16 juillet. Ce sera le troisième lundi du mois de juillet. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.